Après cette séance, le vocabulaire des banlieues s'enrichit de deux formules proustiennes. Bonjour vous et ma chère. La première sort deux fois des lèvres de Rachel à Saint-Loup. Elle lui paraît le dernier mot de la tendresse et de l'esprit. Les quartiers la trouvèrent craquante et la croquèrent à belles dents. À tout propos, tout amoureux disait à sa fiancée « Bonjour, vous !» et inversement. C'était une avancée par rapport à « Wesh, mon BG, pour beau gosse, tu déchires ta race !» et à « Zarma, ma meuf, tu me fissures !» La seconde revient 19 fois dans toute l'œuvre, principalement dans le côté de Guermantes et Sodome et Gomorre. Mais, dans l'occurrence de ce soir-là, elle amusa, plut, fut retenue et mise au goût du jour. Ma chère, Madame de Luynes me fait penser à Yolande. Au temps d'Internet et des portables, les modes s'imposaient en quelques heures. Dans son émission Libre Antenne, Fun Radio lui réserva immédiatement un sort privilégié. Et ma chère devint sans chichi une scie. Ce n'est pas simple de savoir comment un mot s'impose dans la conversation. Fabrice avait eu l'occasion d'y réfléchir dans son livre recensant les expressions du langage commun contenant un nom propre. Il avait remarqué que ce n'étaient ni les plus grands auteurs, ni les plus glorieuses époques qui en étaient à l'origine. Ainsi, de l'épopée napoléonienne, le langage n'avait retenu que les défaites, la Bérésina, le mot de Cambronne, ce Waterloo, le coup de Trafalgar. Il prenait souvent l'exemple du bruit dans Landerneau, servi à toutes les sauces, et dont le père n'était qu'un obscur auteur de la fin du XVIIIe siècle, mais dont une pièce, Le naufrage ou les héritiers, contenait la formule qui était répétée par le serviteur du châtelain de Landerneau, que l'on avait cru mort, et qui revenait bien vivant au moment où sa famille se partageait les biens. Le retour de monsieur, ça va faire du bruit dans Landerneau. Fabrice avait considéré, sans pouvoir être démenti, que c'est le ton du comédien sans doute un peu forcé, donc ridicule, qui avait popularisé ce mot. Pour ma chère, c'était sans doute la même recette, sauf que la répétition était due à la multidiffusion radiophonique et aux échanges entre écrans de téléphone. La bouche en cul de poule, les jeunes se saisirent et se délectèrent de l'interpellation. Dans le cas de Madame de Luynes et de Yolande, il s'agit du portrait de la première qui rappelle à la seconde, une amie sans doute de Madame de Villeparisis et de sa nièce. C'est elle qui parle, la duchesse de Guermantes. Les jeunes en usèrent pour comparer un personnage illustre à une connaissance fort différente de lui. Par exemple, « Ma chère, Michael Jackson me fait penser à Josiane. » « Ma chère, Joachim Noah me fait penser à Yvette. »« Ma chère, Harry Roselmack me fait penser à Ghislaine. » Prononcez J, pas G. Le week-end de représentation s'ouvrit le samedi après-midi avec la suite des invités de Madame de Villeparisis dans Monsieur de Norpois, au demeurant son amant. Son entrée a un air piquant. L'hôtesse a dit qu'il était dans le bureau, mais lui, voulant faire croire qu'il venait du dehors, prit au hasard un chapeau dans l'antichambre et vint baiser cérémonieusement la main de Madame de Villeparisis en lui demandant de ses nouvelles avec le même intérêt qu'on manifeste après une longue absence. suit le duc de Guermantes, énorme gaillard vieillissant, qui se parait de sa femme mais ne l'aimait pas. On eut droit à de longs échanges sur l'affaire Dreyfus, avec son lot de mots d'époque, préjugés de race pour racisme, et forte sentence. Quand on s'appelle le marquis de Saint-Loup, on n'est pas Dreyfusard, que voulez-vous que je vous dise? Au passage, les proches du groupe qui recevait eurent un haut-le-cœur en entendant le nom de Labouli, de même origine que ceux qui occupaient le site. Le cercle sportif vécut douloureusement à l'aube du XXIe siècle ce qu'il appela l'impensable. Un véritable coup de poignard au Racing Club de France, la prise de contrôle par Lagardère, l'obligeant à déplacer son centre névralgique à Labouli. L'évocation d'un procès de bloc à un cercle, qui lui semblait élégant, régala les présents concernés. Mais tous furent pris d'un franc rire quand Oriane qualifie Madame de Cambremer d'énorme herbivore et de troupeau de vaches. La ronde des arrivées continue avec la vicomtesse de Marsante, considérée dans le faubourg Saint-Germain comme un être supérieur, d'une bonté, d'une résignation angélique. Sa description offrait l'occasion de définir la vraie aristocratie. Être grande dame, c'est jouer à la grande dame, c'est-à-dire, pour une part, jouer la simplicité. C'est un jeu qui coûte extrêmement cher, d'autant plus que la simplicité ne ravit qu'à la condition que les autres sachent que vous pourriez ne pas être simple, c'est-à-dire que vous êtes très riche. Et c'est peu après qu'est décrite une façon fort noble de montrer une discrète satisfaction comme excelle à le faire la duchesse. Un imperceptible sourire fit onduler les cils de Madame de Guermantes, qui regarda le cercle qu'avec la pointe de son ombrelle elle traçait sur le tapis. Ah, les cils ondulants! « Ah, la pointe de l'ombrelle !» s'extasia Madame de Custière, approuvée par Faride. On annonçait l'entrée de Robert de Saint-Loup. Mais pour l'entendre, il faudrait patienter. C'était la fin de la séance et l'heure du buffet de chez le nôtre. Son chef étoilé, Frédéric Anton, venait en voisin puisqu'il présidait à la destinée du prix Catelan. Il offrit son menu hiver, comprenant un crabe préparé en coque, fine gelée de corail et caviar de France, soupe au parfum de fenouil et un riz de veau cuit en casserole, aux truffes, soubise, fine purée de céleri à la cannelle, petite fleur en tempura. S'il abusait des majuscules, il n'en proposait pas moins des portions qui semblaient à tort minuscules dans leurs gigantesques assiettes.